que l'issue de tout ça, c'est bel et bien que Trump gracie des personnes qui ont accepté de mentir en toute honnêteté, si on peut dire, ou en tout cas de façon en toute connaissance de cause. Et le tout se déroule comme un mauvais téléroman sous nos yeux. Et bien sûr, il faut surtout pas se leurrer, mais c'est exactement le même modèle qui sévit au niveau de la politique canadienne et à bien d'autres endroits dans le monde où les riches se servent dans une espèce de buffet à ciel ouvert. Donc, un livre à lire pour savoir un peu où on s'en va avec nos skis, même s'il n'y a pas de neige, Trump et l'enquête russe, un président déchaîné, c'est publié par un collectif avec le journal donc, The Washington Post, c'est publié par Disclose et Édition Goutte d'Or. Pour s'achever et pour débuter cette année de façon flamboyante, un livre assez rude sur une empoisonneuse. Donc, on s'en va dans une fiction qui peut évoquer Violette Naudière. Voilà, ça s'intitule Fleurs de tonnerre. Je sais pas pourquoi on appelle toujours ça des fleurs, mais c'est ça, c'est des personnages féminins qui peuvent aussi distiller une certaine méchanceté, ce dont on est guère habitué dans les fictions habituellement. Il y a plutôt des stéréotypes qui saisissent. Donc, Fleurs de tonnerre est publié chez Futuropolis. Les auteurs sont Jean-Luc Cornette pour le scénario, d'après un roman de Jean Teulé qui est paru il y a plusieurs, je pense, une bonne dizaine d'années au moins, et le dessinateur est Jurg. Ça s'écrit, ça s'appelle JURG. C'est dessiné de façon très charbonneuse. Ça me rappelle un auteur, un dessinateur de bande dessinée que j'affectionne, qui est Tom Tirabosco, sur lequel on voit l'espèce de charbon des crayons, des pastels, et le dessin est quand même relativement grossier, mais très vivant, très expressif. On est dans la Bretagne médiévale, on est dans un monde de sorcellerie, dans un monde de contes, d'elfes, et aussi de la mort qui hante les plaines, qui hante les landes de la Bretagne. Cette jeune femme va, pour des raisons plus ou moins expliquées, en fait, c'est plutôt une espèce de challenge avec la vie que de donner la mort avec des biscuits ou avec des gâteaux dans lesquels va apparaître de l'arsenic ou des plantes qui sont cueillies dans la lande. Alors voilà, c'est une véritable hécatombe qu'elle crée derrière elle en allant chez un curé ou chez un bourgeois. Et c'est absolument fascinant. C'est une histoire qui est, je dirais, peut-être cynique, sombre, noire, mais qui comporte une espèce d'énergie, une vivacité étonnante. Alors, personnellement, j'ai pris grand plaisir à lire ce livre, un peu comme j'avais pu lire Violette Naudière, qu'un certain cinéaste avait repris avec brio. Voilà, Fleurs de tonnerre, d'après le roman de Jean Teulé, par les auteurs Jean-Luc Cornette et Jurg, publié chez Futuropolis. Pour mettre un point d'orgue à notre truc, eh bien, on va mettre une musique ici sur les ondes de CKUT 90.3 FM au lendemain de la veille. Une musique qui peut-être donnerait une indice, en tout cas une piste intéressante pour débuter cette année. Peut-être que c'est un vœu de ma part, mais de décroissance, de consommation, de cesser cette consommation effrénée, peut-être même d'essayer de mettre la hache là-dedans, si on peut dire. Il s'agit donc de Ève Cournoyer comme proposition musicale, tirée d'un album intitulé fort justement Tempête. Et cet album a été publié en 2010, et c'est la pièce Anna que je vous propose, qui nous parle de cochonneries éphémères dont on pourrait se passer aisément sans parler de d'autres trucs. Rappelons que Yves Cournoyer s'est enlevé la vie en 2012. Peut-être pas une note joyeuse, mais une note rappeler que certaines personnes ont beaucoup de difficultés à vivre dans un monde hypocrite et le mensonge. Voilà. Merci beaucoup, Tamara, pour ton accueil que je salue.
Merci, merci Ramon. Et aussi, c'est important, je trouve, que tu mentionnes que la personne se soit enlevée la vie pendant qu'on s'aligne dans le mois de janvier et février, qui est connu mondialement comme les deux mois où il y a le plus de suicides, statistiquement parlant, dans l'hémisphère nord par rapport à tous les autres mois de l'année. Donc,
Absolument. Merci beaucoup et bon début d'année en toute révolution.
Yeah. Si la vie se charge de nous faire comprendre des choses, osons-nous avouer qu'on n'a rien compris à la vie. Voilà qu'on la réduit en une chose, qu'on overdose et le surplus explose. La tombe se comble avec toutes ces choses. On se sent moins que rien sans toutes ces choses. Ce qu'on achète puis à jeter boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète puis à jeter boomerangera dans l'ouragan Hannah. Et qu'en profiter est sage chose. Arrêterons-nous de gaspiller, le demi-tour est permis. On est tombé dans le panneau du plastique, dans la flèche d'or, tous dans le trafic. Humains effarés sur la route du fric. Être rendu là, c'est plus chic. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan et qu'on fait sont en harmonie, v'là le bonheur dans la vie. Plutôt on compense, on dépense, ensuite on ressent l'effet. Mais on pourrait faire mieux que ça, cheminer, cracher nous le résultat. La doctrine du dioxyde nous étouffera. Toutes ces choses inutiles, c'est ce qui restera. Le dernier cri du jour, des sacs vides d'amour, des sandales éphémères, des bijoux de ma mère, des carcasses d'équipements qui prenaient tout mon temps, des bébelles de bébé, des poubelles d'Angers, des lits, des draps, des cochonneries, des gugus à un U hors plastique, hystérie. Le continent de vidange grossit. L'histoire de la Terre, c'est que c'était beau ici. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah. Ce qu'on achète, puis à jeter, boomerangera dans l'ouragan Hannah.
Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner.
Un redressement ici, deux redressements ici. OK, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat.
Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir, comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre 5 livres. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants de dinde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, ma dinde, hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. on garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Pour limiter la propagation du virus, le Québec doit se remettre sur pause. C'est pourquoi, à nouveau, nous devons rester à la maison et éviter les déplacements non essentiels. Les rassemblements sont interdits en zone rouge, à éviter en zone orange, et il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base. Pour freiner le virus, remettons-nous sur pause. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
This is Democracy Now!
We need a vaccine that everyone can have free of charge, no matter where you live or whether you're rich or you're poor. We need companies to share all their research so we can make enough safe vaccines for everyone. We need a vaccine owned by all of us.
While the United States, Britain, and other wealthy nations race to vaccinate their populations, a new report finds as many as 9 out of 10 people in dozens of poorer countries could miss out on the vaccine until at least 2022, because wealthy countries are hoarding enough doses to vaccinate their entire populations between 3 and 5 times over. We'll look at the growing movement to develop a people's vaccine. Then we speak to one of the world's leading infectious disease doctors, Paul Farmer, the co-founder of Partners in Health.
Well, I mean, we are facing the consequences of decades and decades of underinvestment in public health and of centuries of misallocation of funds away from those who need that help most.
Dr. Paul Farmer will talk about the pandemic, healthcare inequality, and his new book, Fevers, Feuds, and Diamonds, Ebola, and the Ravages of History. All that and more coming up. This is Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. As the United States, Britain, and other nations begin unprecedented mass vaccination campaigns to combat the COVID-19 pandemic, other parts of the world may not have access to vaccines for months, if not years. A new report finds as many as 9 out of 10 people in dozens of poorer countries could miss out on the coronavirus vaccine until at least 2022. Because wealthy countries, including the United States, are hoarding enough doses to vaccinate their entire populations between 3 and 5 times over. The report was issued by the People's Vaccine Alliance, which includes Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now, and Oxfam. This is Winifred Bayanima, Executive Director of UNAIDS, in a video produced by the People's Vaccine Alliance.
Huge pharmaceutical companies are keeping the vaccine research a secret. They're deciding how many vaccines get made, how much to charge for them, and who gets vaccinated. This will no doubt leave billions of people behind. Pharma companies are putting profit, not people, first. Yet, billions of dollars of taxpayers' money is funding their work. We cannot let the CEOs of a handful of pharmaceutical companies decide our future. We need a vaccine that everyone can have free of charge, no matter where you live or whether you're rich or you're poor. We need companies to share all their research so we can make enough safe vaccines for everyone. We need a vaccine owned by all of us. To end this COVID-19 pandemic, we need to pull together once more.
That was the UN AIDS Executive Director, part of the People's Vaccine Alliance. The World Health Organization has also warned about the inequitable distribution of the vaccine. This is WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus.
We simply cannot accept a world in which the poor and marginalized are trampled by the rich and powerful in the stampede for vaccines. This is a global crisis, and the solutions must be shared equitably as global public goods, not as private commodities that widen inequalities.
In early December, Democracy Now!'s Juan Gonzalez and I spoke to two guests about the calls for a people's vaccine. Dr. Moga Kamal Yaneh joined us from Oxford, England. She's policy advisor to the People's Vaccine Alliance. She worked for decades on access to medicines and healthcare in developing countries. And Achal Prabhla joined us from Bangalore, India, where he's coordinator of the Access IBSA project, which campaigns for access to medicines in IBSA. That's India, Brazil, and South Africa. He recently co-authored an op-ed published in the New York Times headlined, "Want Vaccines Fast? Suspend Intellectual Property Rights." I asked Dr. Moga Kamal Yaneh to talk about the call for a people's vaccine.
Well, the People's Vaccine is a coalition of organizations like Amnesty, Frontline AIDS, Global Justice, Oxfam. It's co-led by Oxfam and UNAIDS, and it has so many people, you know, academics, health activists, health experts, NGOs, patient groups from all over the world, united for one aim, which has a people's vaccine, not a profit vaccine. So we want a vaccine. Basically, we're calling for vaccination that, you know, that is available for all people at risk, and then for everybody once we have enough doses, but not the way it's happening now, where if you happen to be born in a rich country, you get the vaccine. If you happen to be born in a poor country, you don't. And I mean, yesterday in the UK, they started vaccinating older people, and there was some clapping, and you know, it was a lot of joy. And of course, that's brilliant, you know, that there is hope that this problem that we're all suffering from will be, you know, like there's a light at the end of the tunnel. However, that joy is only limited to people living here. I've got friends and relatives and people that I work with in other countries, in developing countries, who are saying, yeah, and what about us? And yeah, what about them? So this is really a big problem. There's just so many. It's kind of dividing the world between those who have and can pay and those who don't and can't pay. And therefore, well, you can stand in the back of the queue. We don't know when you can get the vaccine. And that is just not right. It's not right on moral grounds. It's not right on public health grounds, because everybody's saying nobody's safe until everybody's safe. Yeah, okay. How do you make everybody safe? So a vaccine nationalism will not get you to everybody safe. And also on economic ground, you're not going to get the economy growing if just one, or back to normal, if one country vaccinates its population and the rest of the world isn't. You can't trade with people who are sick, or people who have you know, high level of infection. So what, you know, it just doesn't make sense at all. The other important point is that this is not kind of fact of life that, oh, we have limited amount of vaccines. Actually, that's not the case. There are other options that will enable the world to produce more vaccines and therefore vaccinate more people. So basically, what's happening now, if you can imagine that we have a small pie, so that's one vaccine, a small pie. And so basically, the rich can have the bigger share of it, and then we'll have just crumbs left for developing countries. While the idea is why don't we increase the pie so everybody can have a decent share of it, rather than fighting on a little one?
Well, Dr. Kamaljani, I wanted to ask you about the AstraZeneca Oxford vaccine and how access to that vaccine may be more equitable at this stage. Could you talk about some of the agreements that the AstraZeneca has reached with the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Gavi, the Vaccine Alliance?
Well, basically, I mean, this vaccine has been developed by Oxford University. Oxford University had a standard on managing intellectual property, and it actually talks about open license. However, when they did the deal or the contract with AstraZeneca, it became exclusive license for AstraZeneca. But they managed to put some conditions in the contract about making the vaccine accessible to developing countries. So AstraZeneca went to one of the big vaccine producers in India, the Serum Institute, and made an agreement to produce 1 billion doses. So that's vaccinating 500 million people. Half of them will be in India. So it's a good way, you know, good start to make more vaccines available. They also, AstraZeneca also has some agreements with other countries, like with Argentina and Brazil. So that may cover a number of people in Latin America. But what about the rest of the population? There's some other deals with countries, but not production as such. You know, you can't leave, you know, so AstraZeneca compared to others, yes, they've done good things, and also fixing the price as, AstraZeneca said $4 per dose, and Serum said $3 per dose. For developing countries, it will be probably $3 per dose, so $6 per course. Or per person. But the thing is, you can't leave, this is the whole thing, you can't leave the decision on supply, price, which country, which patient, to companies. That's not their job. Their job is to produce. And the job of governments is to make more production. So you have to enable other producers, like in India, there's other producers. Other countries would have other producers. So if you allow technology transfer, so sharing technology, which is the technology, by the way, a lot of it has been developed by public money, including from the US and the UK and Europe and other countries. So allowing the sharing of technology and removing the intellectual property barrier, so no patents on vaccines, then other companies can produce the vaccine, and we have more. And just like AstraZeneca did this contract with Serum that includes presumably technology transfer or some technology transfer, that can be done on a multilateral level, on a bigger level for more companies. Because all these deals, by the way, they're all secret. You don't know what's in it except what they announce. Rather than if you have a multilateral agreement, you don't, you know, the negotiation happens in closed door. But then once they agree a license, then it's public. Then you see what's good and what's bad about it.
I wanted to bring Achal Pravala into the conversation, again, coordinator of Access IBSA Project, which campaigns to access medicines for India, Brazil, South Africa. This piece you recently wrote in the New York Times, Want Vaccines Fast? Suspend Intellectual Property Rights. You're joining us from Bangalore, India. Can you talk about what that would mean if you suspended intellectual property rights? Talk about trade secrets, talk about patents, talk about government subsidies of these private companies. And how does what's happening now, the development of this vaccine, compare to people's access, for example, to the flu vaccine, how that was developed and financed?
Thank you, Amy. Firstly, it's great to be here, and thank you for having me. The piece that we wrote in the New York Times was geared around an event that's unfolding this week and the next. It doesn't look like it'll get resolved anytime soon or successfully, but that event is a proposal that South Africa and India made at the WTO, at the World Trade Organization, to temporarily suspend a trade rule called TRIPS, which is an agreement on trade-related aspects of intellectual property, the super governance of intellectual property worldwide, which the WTO takes on. And the reason India and South Africa suggested that all member countries of the WTO should be exempted from provisions of TRIPS is so that everything that we require to survive the pandemic, the masks, the test kits, but now especially the vaccines, should be free to be made in as much capacity as possible to get them faster and cheaper to as many people as we can around the world. There is an overwhelming support from developing countries for this proposal, but the WTO works on consensus, which means that even if five or six very rich countries oppose the proposal, it actually won't pass. And that's exactly what's happening. The US, the EU, the UK, and a few other rich countries, as well as inexplicably Brazil, have opposed this proposal and are stalling it, which means that it's unlikely to go through without a fight. Now, the irony of the fight having to take place this week is there's really good news out of the UK. There's also really good news out of science. And personally, for me, sitting in India, I wish I could share in that good news with the same spirit of cheer and celebration. I saw a moving interview with a 91-year-old called Martin Kenyon in London, who called his hospital, said, "Hey, I heard you had vaccines." They said, "Yes, come on over and get one." He walked over and he got a Pfizer vaccine, the first dose of a Pfizer vaccine, and he's looking forward to hugging his grandchildren this Christmas, and it's a beautiful, touching story. The problem with that is that Pfizer vaccine, over 90% of its supplies until the end of 2021, so that means for the next 13 months, have been sold out to a handful of rich countries, to the US, to the EU, and to the UK. There's actually no way that anyone in India or anyone anywhere outside these rich countries is going to get their hands on one of these vaccines for love or for money. They just don't exist outside a very few number of rich countries. That's kind of amazing to live through in 2020. I've been campaigning for access to medicines for a long time, but my father had COVID. He's 87 years old. My mother is 72 years old. I definitely would like them to have a vaccine and get one fairly quickly. The prospect of these vaccines being unrolled without any possibility of a majority of the world getting them is genuinely heartbreaking. And that's the anger that partly prompted that piece. The irony, of course, is that this is such a dramatically different situation from the 1950s when the flu vaccine was developed by Jonas Salk, who, of course, famously said, when asked by Ed Morrow about whether he was going to patent his invention, he said, "Ha ha ha, can you patent the sun?" And it's a heartbreak. It's a beautiful it's a beautiful moment. It's a really beautiful moment. And
that was about the polio vaccine.
I'm sorry, that was about the polio vaccine. That's exactly right. And that's about the polio vaccine. The tradition of Jonas Salk, however, does continue with the flu vaccine that we all take. That flu vaccine is developed at a unit of the WHO, which it's called informally the flu network and formally the Global Influenza Surveillance and Research Systems. It's a collaborative infrastructure that they've set up at the WHO that involves 110 different countries, 130 different laboratories, which pool information on what strains of influenza are circulating in their countries. That information is collated, and every year for two different flu seasons in the Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere, the WHO then releases what would be called the formula for the flu vaccine, which then anyone anywhere can produce because it's completely free of any proprietary intellectual property or monopoly, which means that billions of people have taken it since the 1970s based on this cooperative shared system of pooling knowledge as well as finances. And that's created a very robust infrastructure for the production and consumption of these flu vaccines. And it's a great success. It's unfortunately exactly the kind of thing that's not being replicated with the coronavirus vaccines.
Well, Achal Pravila, I wanted to ask you, in terms of the refusal of these handful of rich countries to allow the suspension of intellectual property rights at the WTO. What is their argument, given the enormous worldwide crisis that we're functioning? How do they defend this, and what could possibly be done to overcome this resistance?
I wish actually sometimes that people would just be honest and upfront and say, look, we actually care about these corporations more than global human life. We're actually fine with a certain number of usually poor people dying for a lack of access to these vaccines, as long as the companies and the industry that makes them survives. I'd be willing to listen to that argument because it at least would be honest. What happens instead is that the arguments that are advanced are, A, that it's not a problem. To say that it's not a problem ignores 20 years of human history where millions of people died because of lack of access to monopoly drugs for AIDS, and then did so again for lack of access to drugs for cancer, and then did so again for lack of access to hepatitis C drugs, and by the way, are doing today in the United States for lack of access to insulin, which is again patented, for a lack of access to PrEP for AIDS, or for a lack of access to cystic fibrosis drugs in the UK. So it's to deny reality. But the logic that's advanced is that the innovation system requires these monopolies to exist in order to reward private pharmaceutical corporations for taking big risks with private money. Except for the fact that that's not what's happening here. It's never happened, but it's never happened as starkly as it is not happening in the pandemic. Moderna, which is just one of the vaccines that posted successful results a couple of weeks ago, has admitted in its own financial reports that 100% of its vaccine development project was funded by BARDA, by Warp Speed and the U.S. government, U.S. taxpayer money. On top of that, it's been given pre-orders of another $1.5 billion from the United States, and another substantial amount of money, nearing about $1 billion, from the European Union. Every other vaccine, from Pfizer to AstraZeneca, also has substantial government money. German taxpayer money of up to $445 million went into the Pfizer vaccine. AstraZeneca received huge subsidies through public money from the United Kingdom through its early development at Oxford University. All of these vaccines have, on top of that, received these very lucrative, very large pre-orders. Now, you can't have it always. You cannot have a vaccine project literally contracted out. I hesitate to say subsidy because when it's 100% of the cost, that's not a subsidy, that's ownership. You cannot have a prize like a pre-order of $6 billion, which is basically what Pfizer has awaiting it on successful completion of its trials and approval. And on top of that, say, but we also need the intellectual property monopoly because of all this private capital we've risked, which doesn't seem to actually exist. It is very, very strange, but this is the argument that's being advanced. It doesn't hold water. I think they understand that as well. It's just that this argument has a rich history. It's embedded in a particular kind of thinking, a particular branch of economics, which they know that they can ride on and, in effect, lie their way through opposing what is really a very sensible and unradical proposal made by South Africa and India at the WTO.
I wanted to ask Dr. Kamal Yani again about the situation with the Trump administration had removed the United States from the World Health Organization. President-elect Biden is now saying he will return the U.S. to the WHO. What do you think has been the impact of the United States pulling out of the WHO in the midst of this pandemic?
Well, I mean, what do you say about such an amazing, really, you know, incredible, irresponsible, I'm afraid, decision in the middle of a pandemic to do that? I mean, it's strange decision, even if we're not in pandemic. So what do you think if we are in the middle of it? It's really, really not very good. My dream, to be honest, as a non-American about your election is to retain two things. One, the American role in you know, in advancing global health and particularly in joining the WHO, and also, you know, putting science before politics. This has been also very, very problematic from the U.S. It really affected not just decision makers in other countries, but also ordinary people. This ignoring the science behind COVID was really, really bad. So we do hope that the new administration, I mean, they made commitment, Biden made a commitment to join the WHO. That is fantastic. The sooner the better, you know. That would be great. But also for the U.S. to join something like, or to voice public support for something like this technology access pool that WHO and other countries co-sponsored, to do the facilitation of licensing intellectual property and so managing intellectual property, that, you know, your previous question, but also facilitating technology transfer to other companies. So supporting the CTAB would be absolutely fantastic.
Finally, how exactly, summing up in a minute, if you got around trade secrets, if the companies were forced to release their trade secrets, they didn't get patents on this, how would a people's vaccine work? Every company all over could just develop the vaccine where it is. What's shocking, President Trump signed some executive order, not clear how enforceable it is, called America First. We have learned, if you're altruistic or not, if someone is sick somewhere in the world, you are in danger. So this is, everyone is in this together. But what would a people's vaccine, how would it happen?
What it requires is, firstly, for companies to say there are two aspects of our monopoly that we'll give up. We'll share with you our patents and we'll share with you our trade secrets. Trade secrets are the know-how and the technology that's required to make a vaccine. It's a very important part of the process. If they were to say, look, we'll license this to any company with a reputation and a quality certification that's willing to make this vaccine with us, then let's open it up and let's have anyone interested do it. And if they did that, they would suddenly find that there are whole avenues of supply that open up around the world. There are over 20 vaccine manufacturers in India, but there are also 8 vaccine manufacturers on the continent of Africa. And there are a number of ways in which you can do this collaboratively. The one way not to do it is the way that they are, by producing these artificially limited quantities of these vaccines by sort of keeping it all to themselves.
Achal Prabhula, coordinator of Access IBSA project, speaking to us from Bangalore, India. Thanks also to Dr. Moga Kamelyanay of the People's Vaccine Alliance. When we come back, we'll speak to one of the world's leading infectious disease doctors, Paul Farmer.
Aujourd'hui, on parle COVID-19, influenza et nouvelles activités découlant du projet de loi 31. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode spécial 31. Et oui, hein, la saison grippale est à nos portes, on le sait, et on ne pouvait pas ne pas en parler à Très Pharmacien, surtout que cette année, c'est particulier parce qu'on est en présence de la COVID-19 et de l'influenza. Et on le sait, hein, il faut se le dire, ce sont des virus qui présentent des symptômes similaires. Parallèlement à ça, on a les nouvelles activités associées à la loi sur la pharmacie qui vont permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments dans un contexte d'influenza, que ce soit dans un contexte de prévention, de traitement ou de vaccination. Alors, à Très Pharmacien, on a eu envie de vous soutenir dans cette situation hors du commun de COVID, d'influenza et de nouvelles activités. Et pour en parler avec nous, nous recevons Daniel Thirion, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Daniel.
Allô, Nathalie. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui.
On est content de t'avoir avec nous. Dis-moi, d'entrée de jeu, là, peux-tu me rappeler c'est quoi les éléments associés à l'influenza qu'on va retrouver dans les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie qui est pour le moment, là, lors de l'enregistrement, toujours pas adoptée?
Oui, c'est très intéressant. Alors, on appelle le nouveau projet de loi, la loi 31, qui a été passée à l'Assemblée cet été. Et ce que cette loi mentionne plus précisément pour l'influenza, c'est que les pharmaciens peuvent prescrire des antiviraux pour traiter des patients avec l'influenza qui sont à risque de complications. Et ils peuvent aussi prescrire des antiviraux pour prévenir l'influenza chez les patients qui sont à risque de complications s'ils l'attrapent.
C'est ça. Bien, j'ai dit que la loi n'était pas adoptée, mais en fait, la loi est adoptée, mais c'est les règlements qui ne sont pas adoptés. Puis la prescription des antiviraux, ça fait partie des règlements là, dont on attend l'adoption. Puis il y a aussi la vaccination, évidemment. Ça, on a le droit maintenant de vacciner.
Oui. Alors, c'est clair que les activités des pharmaciens englobent aussi la vaccination, non seulement pour l'influenza, mais pour toute la vaccination qui est disponible là, sur le marché canadien.
Bon, Daniel, parlons là, tout de suite du vif du sujet. Là, on est en pleine pandémie de la COVID-19. Comment on va faire pour distinguer les caractéristiques cliniques de l'influenza de celles du coronavirus?
En fait, le problème là, avec le COVID-19 puis l'influenza, c'est que les deux ont une présentation quasi semblable pour les patients. Donc, il va être très difficile pour les cliniciens d'être capable de distinguer les deux. Mais il y a quelques indices là, qui peuvent nous aider. Plus particulièrement, le COVID-19, ce qui est intéressant, c'est que les patients peuvent se présenter avec de l'anosmie, des difficultés au niveau de l'odorat, ou encore une dysgeusie, des difficultés au niveau du goût. Et ça, c'est plus caractéristique du COVID-19. On ne voit pas ça généralement avec les patients à l'influenza. Alors, si on fait juste la comparaison entre les deux, c'est surtout les paramètres de complications là, qui sont vraiment inquiétants. Je pense que tout le monde est au courant. Mais pour le COVID-19, les patients se présentent avec une tempête inflammatoire là, qui les amène aux soins intensifs, qui peut résulter en décès. Et ce qui est important à distinguer là, cette année, c'est qu'on veut essayer de traiter l'influenza plus en milieu communautaire pour éviter de surcharger notre système de santé en établissement de santé. Alors, ce qu'on voit surtout là, au niveau de la contagion entre l'influenza et le COVID-19, c'est que là, les démarches au niveau du CDC aux États-Unis, le Center for Disease Control, est en train de déterminer que le COVID-19 a une transmission par voie aérienne, ce qui complique un peu le tableau où qu'on doit mettre des mesures de prévention additionnelles en place. Auparavant, on disait beaucoup plus que la transmission du COVID-19 était par micro-gouttelettes. Et c'est un peu le même type de contagion qu'on voit au niveau de l'influenza là, par micro-gouttelettes. Alors, les mesures de prévention pour l'influenza ont toujours été de se laver les mains puis de prévenir de toucher les objets. Mais là, pour le COVID-19, on est un peu plus inquiet, là, surtout pour les personnes qui sont dans des salles en réunion ou en groupe là, à rapprocher ou ils sont dans des endroits qui sont mal ventilés. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Mais ça, c'est au niveau de la transmission. Quand on parle des complications, comme je l'ai mentionné, les complications du COVID-19 peuvent être beaucoup plus graves que l'influenza. Avant la pandémie d'influenza en 2009, on n'avait jamais vu de patients aux soins intensifs. Maintenant, on en voit de temps en temps, mais avec le COVID-19, là, ça remplit nos soins intensifs. Ça prend toute la place là, pour au lieu de nos patients en chirurgie. Là. Avec le COVID-19, les complications sont beaucoup plus graves sont plus fréquentes et c'est en train de surcharger nos établissements de santé.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis avant 2019, on n'avait jamais vu des patients aux soins intensifs? Tu veux dire pour l'influenza?
Pour l'influenza, en 2009, quand on a eu la pandémie, avec l'introduction de la nouvelle souche H1N1, il y a une bonne partie de la population qui avait zéro immunité. Et donc, on avait des cas plus graves et on avait quelques patients qui se ramassaient aux soins intensifs, qui avaient besoin de soins vraiment particuliers. Ça semble s'estomper depuis 2009. Mais avec le COVID-19, c'est clair, là, nos soins intensifs sont remplis. Là. Au mois de mars, avril, c'était très plein. Et c'est le cas en ce moment. Là, on commence à avoir une augmentation du nombre de cas dans nos soins intensifs.
Puis si je te ramène à l'influenza, là, le fait qu'on a mis tout plein de mesures en place justement pour prévenir la propagation de la COVID-19, est-ce qu'on va, logiquement, là, on devrait avoir moins de patients atteints d'influenza? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, Nathalie, ton impression est bonne. On a vu dans l'hémisphère sud, pendant la période d'isolement, là, dans leur période d'hiver, mars-avril, une diminution dramatique des cas d'influenza comparée aux années antérieures. Alors, on a espoir un peu au Canada qu'on ait moins d'influenza si on maintient les mesures de confinement qui sont en place actuellement.
J'imagine que c'est un peu ce qu'on désire, là, parce que ça va être vraiment un casse-tête là, d'avoir les deux virus qui se chevauchent simultanément. Là.
Oui, alors c'est clair que pour la société, on aimerait pouvoir sortir du confinement le plus rapidement possible et régler le problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis si un des effets bénéfiques, c'est qu'on évite la transmission de l'influenza, bien, ça va nous épargner notre système de santé sur ce fardeau additionnel qu'on veut éviter. Là.
OK, rendons ça pratico-pratique. Là. Je suis en présence d'un patient qui a des symptômes de grippe ou des symptômes de COVID, là. Je ne le sais pas trop, qui présente une fatigue soudaine. On est en pleine pandémie, elle se sent faible, mais tu sais, pas vraiment d'anosmie ou dysgeusie. Qu'est-ce que je fais?
OK, donc les premiers patients qui vont se présenter, là, soit en milieu communautaire là, ou encore pour des pharmaciens qui sont à l'urgence, le contact est peut-être un petit peu différent dans les deux milieux, là, mais... L'évaluation des patients passe premièrement par le COVID-19 et on a des mesures en place pour la santé publique pour le dépistage des patients COVID-19. Là, si le patient ne rencontre pas les critères de dépistage pour le COVID-19, mais se présente quand même avec un syndrome d'allure grippale, et c'est là qu'on met l'emphase, c'est sur les symptômes, alors on peut commencer à faire l'évaluation de ces patients-là pour initier le traitement. Alors, c'est un peu notre objectif là, au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir donner la possibilité aux pharmaciens de prendre en charge certains patients qui n'ont pas besoin d'être pris en charge dans nos établissements de santé.
Fait que je comprends que ça serait quelqu'un qui, tu sais, on passe les critères associés au dépistage de la COVID-19, puis on pense que ouf, ça ne fit pas, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est là qu'on pourrait peut-être vouloir prescrire une prophylaxie.
Oui, c'est ça, exactement. Pour les patients symptomatiques, on va vouloir procéder au traitement pour les patients qui se présentent avec un syndrome d'allure grippale. Et les signes diagnostiques, en fait, c'est fièvre, douleur musculaire et présentation aiguë. Généralement, c'est ces trois critères-là qui sont les plus importants. Et ce que j'aimerais annoncer aux auditeurs, c'est que l'INES travaille sur un guide pour aider les pharmaciens à faire leur travail concernant le dépistage des patients qui ont l'influenza. L'autre élément clé, là, c'est de regarder l'activité d'influenza sur le territoire. Et ça, ces données-là sont disponibles par l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, qui va nous indiquer si on a des cas d'influenza sur nos terrains. C'est sûr qu'en début d'éclosion, on ne sera pas capable d'avoir l'information, mais les données sont disponibles à chaque semaine. Donc, sont disponibles assez rapidement pour nous indiquer si on doit avoir des cas d'influenza sur notre territoire ou pas, là.
D'accord. Fait que ça, c'est à retenir là, vraiment. Là, le guide de l'INES qui va être publié sous peu. Peut-être que quand Balado va être en ligne, il sera déjà. Et les documents de l'INSPQ sur les activités sur le territoire, ce sont des documents qu'on va mettre en référence du Balado là, sur le site de l'APES. Dis-moi, Daniel, veux-tu me rappeler un petit peu c'est qui les patients qui sont les plus à risque de développer des complications là, dues à l'influenza?
Comme ça le mentionné dans les lignes directrices là, pour les règlements là, pour la loi de prescrire des antiviraux, on veut le faire pour les patients qui sont à risque élevé de complications. Alors, il y a des définitions et des listes qui sont mises à disposition de nos praticiens. On a une liste qui est disponible par l'INES. encore une fois, ça va venir dans le guide de l'INAES. Cette liste-là est légèrement différente des listes qui sont fournies par Santé publique du Canada et par le Center for Disease Control aux États-Unis. Alors, on a des critères un peu plus spécifiques au Québec, mais grosso modo, c'est tous les patients qui ont des problèmes chroniques au niveau d'un des systèmes, pulmonaire, cardiovasculaire, cérébral. On parle aussi des patients à risque, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et ceux qui sont en surplus de poids et les autochtones, les patients qui sont en CHSLD.
Je pense à nos pharmaciens communautaires là, qui n'ont pas nécessairement la liste des antécédents là, du patient, là, comme quand nous, on partage les dossiers avec les médecins, là, les pharmaciens d'établissement, mais ce n'est pas toujours le cas là, en pharmacie communautaire. Est-ce que juste là, à partir d'un profil pharmacologique, on peut avoir une bonne idée d'un patient qui serait plus à risque de complications?
Nathalie, c'est très intéressant ce que tu demandes, c'est que notre Association canadienne des pharmaciens a développé une liste de médicaments et de classes de médicaments qui pourraient donner un indice au pharmacien que le patient est à risque de complications. Et ça, c'est très utile, particulièrement pour le dépistage, à savoir quand est-ce qu'on veut vacciner les patients. C'est aussi intéressant si on veut procéder à la prévention, si la vaccination n'est pas une option. Et ça peut aussi donner quelques indices chez des patients qui se présentent avec des symptômes qui seraient peut-être à risque de complications.
Fait que peux-tu me donner un exemple, par exemple, des principales classes?
Oui, en fait, je vous invite encore une fois d'aller voir le site web qu'on va vous mettre à disponibilité. Et dans ces classes-là, on retrouve, par exemple, tous les médicaments pour le cancer, les patients qui sont diabétiques, ben, tu as tous les médicaments pour traiter le diabète. Tu as des patients qui ont des maladies respiratoires, alors, toutes les pompes pour l'asthme, la maladie pulmonaire associative chronique sont sur ces listes-là. Les agents immunosuppresseurs, il y a certains antimicrobiens qui sont là-dedans. Par exemple, des patients qui ont des maladies, ben, la tuberculose ou des maladies fongiques, ça donne des signes d'immunosuppression. Alors, et puis, il y a tous les médicaments, bien sûr, pour le système cardiovasculaire, fait que les antihypertenseurs, les IECA, les anticoagulants, les bêta-bloqueurs, les statines, tout ça, c'est là-dessus.
Bon, ben, je comprends qu'on a quand même pas mal de patients à risque, là, quand même. Là. Écoute, là, je reviens à mon cas, là, ma petite madame tantôt qui présentait une fatigue soudaine, là, sans anosmie, sans dysgeusie, mais elle fait de la fièvre, elle a des douleurs musculaires, la présentation est aiguë. Là, j'ai passé à travers le guide de l'INAES, puis je pense vraiment là, que c'est une présentation d'influenza, là. Comment je prescris le Zeltamivir? Qu'est-ce que je devrais savoir avant de prescrire ce médicament-là?
Il y a deux antiviraux là, qu'on préconise pour le traitement et la prévention de l'influenza. C'est le Zeltamivir, puis l'autre, c'est le Zanamivir. La Mantadine était aussi un des médicaments disponibles, mais on ne le recommande pas du tout en ce moment parce que 99% des souches d'influenza sont résistantes à la Mantadine et en plus, ça donne trop d'effets secondaires. Peut-être qu'on va juste mettre notre attention sur le Zeltamivir en premier. C'est notre agent de première ligne de traitement. Et cet agent-là, en fait, il est vraiment très sécuritaire. Ce qu'il va donner, c'est quand même assez simple de dosage, c'est deux fois par jour. Il peut causer des nausées, vomissements, mais c'est quand même assez léger. Il faut surtout surveiller, c'est l'ajustement en insuffisance rénale. Donc, particulièrement pour nos personnes âgées là, qui sont à risque de complications, ça, c'est faut l'ajuster. Il y a parfois des contre-indications s'il y a des patients qui sont allergiques, mais c'est quand même très rare. Sinon, l'autre alternative pour des patients qui tolèrent mal le Zeltamivir, c'est le Zanamivir. Le problème avec le Zanamivir, c'est qu'il peut causer un effet secondaire qui est le bronchospasme. Ce n'est pas l'idéal chez des patients qui ont déjà des problèmes respiratoires, mais c'est quand même un agent intéressant là, au niveau de l'efficacité contre l'influenza type A et B, comme le Zeltamivir. Les effets secondaires sont quand même assez rares.
Alors, dis-moi, là, tu m'as parlé de la résistance à la Mantadine, puis là, ça m'a comme fait peur un peu. Là. Est-ce qu'on a aussi de la résistance à le Zeltamivir ou au Zanamivir?
Oui, fait que là, les deux agents, oui, il y a des souches circulantes qui peuvent être résistantes, mais présentement, il n'y en a pas de résistance. Présentement, on est en bonne situation. Les souches qui circulent ne sont pas résistantes à nos antiviraux présentement disponibles sur le marché.
OK. Donc, ma madame, je lui prescris le Zeltamivir, elle n'est pas insuffisante, elle est pleine de doses, je lui prescris pour 5 jours. Mais si je nous ramène aux activités de la loi sur la pharmacie, il faut encourager le patient à consulter un médecin dans les 48 heures si détérioration des symptômes. Qu'est-ce que tu me recommandes avec cette dame-là?
Bien, là, ça, c'est un élément qui est quand même relativement nouveau pour nos pharmaciens en milieu communautaire. c'est que la loi demande à ce qu'il y ait un suivi dans les premiers 48 heures pour voir s'il y a une réponse thérapeutique ou si une dégradation de l'état de santé de la patiente. Et dans ce contexte-là, il faut référer à la patiente au système de santé, soit vers une infirmière praticienne, vers un médecin à l'urgence ou en clinique médicale. On a des signaux d'alarme là, pour les patients qui se présentent avec des complications. Par exemple, on peut regarder une fièvre persistante, dégradation des signes vitaux, soit une augmentation de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, baisse de la pression artérielle, un état confusionnel ou une baisse de la saturation. Maintenant, c'est très intéressant. On peut parler, par exemple, des Fitbit ou d'autres appareils que les patients peuvent se promener. Ils ont leur saturation. Alors, c'est intéressant, ils peuvent la mesurer puis dire aux pharmaciens s'ils sont capables de bien respirer ou non.
Quelle bonne idée, la Fitbit, j'y aurais pas pensé, c'est vraiment à retenir. Dis-moi, par contre, tu sais, maintenant aussi, avec les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie, on a le droit de prescrire davantage de tests en suivi de la pharmacothérapie. Est-ce qu'on pourrait penser prescrire des tests de dépistage de l'influenza en suivi de l'initiation, mettons, d'un oseltamivir? Est-ce que ça rentre là-dedans?
Alors, pour le dépistage à l'influenza, c'est un outil qui est facilement accessible dans nos établissements de santé. Nos pharmaciens, techniquement, auront probablement accès à un milieu communautaire. L'idée initiale, ce n'est pas d'augmenter le dépistage des patients qui sont malades. L'idée initiale de permettre aux pharmaciens de prescrire, c'est de décharger le système de santé, donc de commencer un traitement empirique pour les patients qui ont un syndrome d'allure grippale et qui sont à risque de complications. Donc, le dépistage, il ne faudrait pas que nos pharmaciens communautaires se mettent à prescrire des dépistages additionnels pour tous les patients qui ont une toux, parce que ça aussi, ça va causer un problème là, pour le dépistage avec le COVID. Alors oui, le test va être disponible, les pharmaciens, il y a des fortes chances qu'ils puissent l'utiliser, mais on va l'utiliser simplement chez les patients qui sont vraiment hospitalisés.
9. On doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
You're listening to CKOT 90.3 FM in Montreal. The show made in Brazil starting now. Today, January 4, 2021. This is our first show of 2021. Made in Brazil is always broadcast for you on the first Monday morning of the month from 9 a.m. until 11 a.m. Your host and programmer, Daniel Shore. This show is being pre-recorded from home because I am social distancing, respecting the measures in place during the pandemic crisis. I hope you enjoyed the show. Thanks for listening.
Quando chegou nem pretensão tu tinha. Só me chamou pra dançar um forró. Na imensidão dos teus cabelos negros, eu vi meu corpo no teu dando um nó. Me desatei no teu abraço quente e no teu olho meu olhar.